Sur le papier, c'est fou quand même qu'on censure de la fiction. Après tout, c'est jamais tout à fait vrai, la fiction. C'est même souvent de l'invention. Alors, qui est-ce que ça menace et pourquoi ça fait peur au pouvoir, l'invention, l'imagination, la création? Je pense à un texte de Roland Barthes qui s'appelle Sade Fourier Loyola et qui est peut-être l'œuvre la plus passionnante que j'ai jamais lue sur la censure. Au sujet du sulfureux et censuré Marquis de Sade, notamment, Barthes propose une lecture tout à fait inédite à la gloire de l'écriture et de la création. Il parle de contre-censure, et il écrit « La subversion la plus profonde, la contre-censure, ne consiste pas forcément à dire ce qui choque l'opinion, la morale, la loi, la police, mais à inventer un discours paradoxal. L'invention, et non la provocation, est un acte révolutionnaire. Celui-ci ne peut s'accomplir que dans la fondation d'une nouvelle langue. La grandeur de Sade, écrit Barthes, n'est pas d'avoir célébré le crime, la perversion, ni d'avoir employé pour cette célébration un langage radical, c'est d'avoir inventé un discours immense, fondé sur ses propres répétitions et non sur celles des autres, monnayé en détails, surprises, voyages, mesures, portraits, configurations, noms propres, etc. Bref, la contre-censure se fut, à partir de l'interdit, de faire du romanesque. Roland Barthes, Sade Fourier Loyola, 1971.
Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un romancier censuré. Depuis la parution de l'immeuble Yacoubian il y a 17 ans, il est devenu l'une des grandes voix de l'Égypte contemporaine, mais aussi une figure de la lutte pour la liberté d'expression. Le 14 mars dernier, une plainte a été déposée contre lui par un tribunal militaire égyptien, l'accusant d'avoir insulté le président de la République, les forces armées et les institutions judiciaires. Son dernier roman, J'ai couru vers le Nil, paru à la rentrée dernière, est à ce jour interdit de publication dans son pays. Bonjour, Alaa El Aswany.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être
merci,
là.
Merci de m'avoir invité.
Ce matin, comment est-ce qu'on compose? Comment est-ce qu'on écrit? Comment est-ce qu'on crée avec la pression de la censure?
Pour moi, c'est une expérience personnelle. C'est que quand j'ai peur, je ne peux pas écrire. Et dès que j'écris, je n'ai plus peur.
C'est quelque chose auquel on pense tout le temps?
Oui, c'est parce que l'acte de l'écriture dépasse la peur. Vous voyez, alors, j'ai jamais eu peur en écrivant. Et je trouve ça normal.
Mais la censure, vous y pensez tout le temps?
Oui, mais le problème, c'est qu'on a dépassé, on a dépassé la censure en Égypte. La censure, ça veut dire qu'on peut passer des choses et on peut interdire d'autres. Mais en Égypte, maintenant, tout est interdit. Vous voyez, alors, c'est pas question de censure. C'est question qu'il n'y a plus de liberté d'expression.
Alaa El Aswany, pourquoi le romancier, à votre avis, est-il toujours une cible privilégiée? Pourquoi le roman, la fiction, inquiète le pouvoir?
Inquiète le pouvoir parce que c'est indépendant et c'est pas contrôlé. Il y a une tendance dans la dictature de tout contrôler. Alors, on ne peut pas contrôler l'imaginaire, vous voyez. Alors, le fait que l'imaginaire ne soit pas contrôlé, et vraiment, ça, le dictateur ne se sent pas confortable.
Alors, celui qui raconte des histoires, oui, c'est le plus grand dissident,
oui,
à vous entendre. Depuis l'élection du général Al-Sisi, il y a 5 ans, vous avez été constamment victime de censure. Alaa El Aswany, interdit de publication, d'apparition dans les médias égyptiens. Dans des circonstances comme celle-ci, à quoi ressemblait votre quotidien?
C'était pas vraiment, c'est pire que jamais. C'est pire que jamais parce que j'ai pas peur, moi. J'ai pas mal d'amis qui sont en prison maintenant, mais le problème, c'est que vous sentez que vous êtes interdit dans le vrai sens.
C'est-à-dire? Hein?
C'est-à-dire que vous pouvez, j'écris dans tous les journaux du monde, mais j'écris plus dans les journaux de mon pays.
Et ça, c'est interdit, vous le sentez au jour le jour?
Oui, oui, oui.
En Égypte,
dès le commencement. Dès le commencement, et aussi, je ne peux plus publier mes romans en Égypte. J'ai publié ce roman au Liban, vous voyez. Ils m'embêtaient tout le temps à l'aéroport. Ils me gardaient 2 heures pour poser des questions bêtes, à mon avis, que c'est seulement pour vous embêter.
C'est une pression constante, en fait.
Absolument. Vous n'êtes la formule dans une dictature. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'action en justice du tribunal militaire à votre rencontre a changé dans votre vie de tous les jours depuis le 14 mars?
J'ai refusé d'envoyer mon avocat parce que j'ai refusé refuse toute cette histoire, et aussi parce que ça ne sert à rien. Parce que selon la loi militaire, le président a le droit de doubler la peine, ou réduire la peine, ou annuler la peine, ou, il peut tout faire. Alors ça ne sert à rien d'aller devant un juge pour... vous voyez.
Mais vivre en Égypte à la El Aswani pour vous, pour votre famille, c'est encore possible aujourd'hui?
Pour moi, non. J'enseigne en Amérique littérature et j'allais rentrer, mais mes avocats ils m'ont dit que tu dois attendre un peu. Et j'ai ma femme et ma fille qui sont au Caire. Ils vont nous joindre. Moi avec l'autre fille à New York.
Qu'est-ce qui se passera si vous êtes condamné concrètement? Est-ce que vous avez une idée?
Oui, mais par exemple, je vais vous raconter que il y a un libraire qui s'appelle Khaled Lotfi qui a vendu un exemplaire d'un livre interdit par l'armée et il a été poursuivi devant un tribunal militaire et il a été jugé à 5 ans en prison. Un seul exemplaire. Vous voyez, lui, il ne savait pas, le pauvre, que c'était interdit. Vous voyez, alors, ça vous donne vraiment une idée de l'atmosphère en Égypte maintenant.
Mais si vous êtes condamné, c'est la prison?
C'est la prison, oui.
Vous avez saisi le rapporteur spécial de l'ONU pour la protection de la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous attendez, au juste, des Nations Unies?
Mais écoute, j'ai été vraiment soutenu... partout, mais le soutien que j'ai eu en France vraiment me touche parce que pour plusieurs raisons, vous voyez. Alors j'ai été soutenu par ces avocats français et ils m'ont appelé en disant que on peut vraiment faire une lettre au bureau de droits de l'homme et le gouvernement égyptien sera obligé de donner des explications. Et je trouve ça très utile.
Mais des explications, c'est une chose, mais le changement, c'en est une autre. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut exercer une pression sur les autorités égyptiennes? Parce que c'est ça la question qui se pose.
Mais le fait que le gouvernement égyptien soit obligé de donner une réponse, c'est pas mal. Hein, parce que souvent, ils font ce qu'ils veulent et ils ne disent rien.
La révolution égyptienne, qui, il y a 8 ans, avait entraîné la chute du président Moubarak et fait souffler un vent d'espoir démocratique sur votre pays, cette révolution dont vous avez été l'une des figures emblématiques à la El Aswani, il reste quoi aujourd'hui?
Il reste la conscience. Il reste la conscience. On voit maintenant au Soudan, on voit en Algérie que c'est pas fini. Vous voyez, on doit pas oublier que 60% des Arabes sont au-dessous de l'âge de 40 ans. Alors il s'agit là d'une nouvelle génération révolutionnaire avec vraiment une vision du monde très différente.
Mais pourquoi, dans l'ensemble, ça n'a pas fonctionné comme il aurait été souhaitable que ça fonctionne?
Parce que, comme révolutionnaire, vous avez votre courage et votre rêve. Ce sont vos armes. À l'autre côté, la contre-révolution, ils ont tout. Ils ont l'armée, la police, les médias. Alors ça prend du temps.
Notre peuple ne fait jamais de révolution, et si, tout à coup, il en fait une, il y renonce rapidement. Notre peuple n'est pas prêt à payer le prix de sa liberté. C'est ce que dit l'un de vos personnages dans votre dernier livre, J'ai couru vers le Nil. Qu'est-ce que vous en faites de cette phrase, de cette opinion?
Je ne suis pas d'accord du tout.
Vous n'êtes pas d'accord?
Mais vous voyez, les personnages, ce n'est pas moi.
Ah, bien sûr.
Oui, je crée les personnages et ils deviennent indépendants. Parfois, ils disent des choses avec lesquelles je suis d'accord et parfois, ils disent des bêtises. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais lui, c'est sa manière de réfléchir, de voir les choses.
Bien sûr. Et si je vous pose la question à la Soigny, c'est parce que ce roman, il explore les coulisses de la révolution égyptienne de 2011 et il est en permanence tiraillé entre la désillusion face à un peuple soumis au pouvoir et l'espoir de voir ce peuple se soulever sans cesse. Quel avenir est-ce que vous lui voyez, vous, au peuple égyptien?
Je suis optimiste. Je pense que la révolution, on peut arrêter la révolution un peu, mais on ne peut pas terminer une révolution parce qu'il ne s'agit pas d'un changement politique. C'est un changement culturel. Les gens, après une révolution, les gens pensent d'une manière différente. Vous voyez, voient des choses qu'ils ne voyaient jamais avant. Alors, le futur est le nôtre.
C'est la jeunesse qui vous donne de l'espoir, j'ai l'impression.
Absolument.
Mais que faudrait-il pour que l'esprit de la révolution se réveille alors, perdure, porte ses fruits?
On doit tenir cette vision. On doit avoir confiance à la révolution. Parce que À l'autre côté, vous avez un régime qui essaye tout le temps d'effacer la révolution. Et c'est pour cela qu'il devient plus méchant que jamais.
Il faut écrire par-dessus.
Exactement.
Celle qui n'est pas du tout dans la révolution, dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité conservatrice faillote et qui n'a que faire de l'intérêt général. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 29 avril ?
Hier, aujourd'hui et demain. J'adore.
Palmarès de hier, bonne nouvelle pour demain. Dimanche soir, la 34e édition du Très Prescripteur, festival international de mode et de photographie de hier dans le Var, s'est achevée sur le sacre de Christoph Rumpf, un jeune designer autrichien adoubé pour une collection homme royale et durable conçue à partir de tissus recyclés. Dans le même temps, le jury photo a récompensé la sud-africaine Alice Mann, tandis que du côté accessoire, c'est l'espagnole Noelia Morales qui a emporté la mise. Bravo le genou.
C'est une invention de Léonard de Vinci.
Bienvenue au Louvre. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable visite.
Pas de résa, pas de chocolat. Le musée du Louvre a annoncé que la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort sera uniquement visible sur réservation. Une mesure exceptionnelle pour éviter la cohue devant les œuvres d'une institution qui accueille quand même 10 millions de visiteurs par an, soit 30 000 par jour. L'ouverture de la billetterie en ligne est prévue pour le 18 juin, près de 4 mois avant le début de l'exposition. À vos agendas.
Tu vas profiter de ta journée, hein ?
Oui, je vais sortir.
Mais oui, il faut aller au soleil, à la plage.
Kechiche ou pas Kechiche, depuis vendredi la rumeur grossit sur les réseaux. 6 ans après sa palme d'or pour La vie d'Adèle, le réalisateur Abdelatif Kechiche serait de retour en compétition officielle à Cannes avec sa dernière œuvre titrée Intermezzo, suite de Mektoub My Love Canto Uno, probablement le plus beau film de l'année dernière si vous voulez mon avis. C'est nos confrères de RTL qui ont annoncé la nouvelle sur leur site internet vendredi, mais le festival de Cannes n'a pas encore confirmé l'information. On croise les doigts.
J'adore lire, je lis beaucoup.
Prêt, partez, le ministère de la Culture et le magazine Livre Hebdo viennent de révéler leur palmarès annuel des prêts en bibliothèque. Réalisé sur un échantillon de 170 établissements, le document révèle notamment que le nombre de prêts a augmenté de 500 000 entre 2017 et 2018. L'article fait aussi découvrir les auteurs les plus prêtés de l'année. Résultat sont les livres jeunesse et les BD qui ont le plus de succès. Et sur la première place du podium, on trouve Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch avec leurs différents opus de la fameuse saga Max et Lily qui ont emprunté plus de 242 000 fois. Allez là! Et l'écrivain Alaa El Aswany, invité de Boomerang ce matin, votre dernier roman, Alaa, paru en septembre dernier, s'intitule donc « J'ai couru vers le Nil », je le disais, et on y retrouve entre autres votre fascination pour les tartuffes, ces archétypes avides de pouvoir qui instrumentalisent la religion à des fins personnelles. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être croyant ? Tiens.
Écoutez, ça dépasse le fait d'être croyant, c'est quelqu'un qui est tartuffe, comme vous venez de dire, c'est quelqu'un qui torture les gens et en même temps il essaye de justifier ses crimes par la religion. Et,
oui.
Et ça, j'ai appris ça grâce à Tartuffe.
Mais pour vous, un vrai croyant, qu'est-ce que ce serait ?
Un vrai croyant, c'est... Moi, je pense que la religion doit toujours être personnelle. Alors, quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas, je pense qu'il doit garder ça pour lui-même.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'est jamais à l'abri des tartuffes ? Pourquoi les individus sont-ils toujours susceptibles de se faire tartuffier ? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à adhérer à un discours religieux malade ? Parce que c'est ça que vous mettez en scène, c'est ça que vous racontez.
Parce que l'hypocrisie commence par en haut, dans une dictature. Et ça continue. Ça continue au niveau, ça commence au niveau du président et ça continue jusqu'à les officiers, les généraux et ça continue jusqu'à une famille normale, ordinaire. Et alors, il y a toujours l'hypocrisie qui est liée à la dictature.
Les Égyptiens vivent au milieu de mensonges qui tiennent lieu de réalité. Ils pratiquent la religion de façon rituelle et semblent pieux, alors qu'en vérité, ils sont complètement corrompus. Tout en Égypte est comme si c'était vrai, alors que ce n'est que mensonge sur mensonge, à commencer par le président de la République qui gouverne grâce à des élections frauduleuses, mais que le peuple complimente, jusqu'au directeur de l'école qui arrête les cours pour la prière de midi, alors qu'il est complètement corrompu, jusqu'aux enseignants pieux et barbus, et aux enseignantes voilées qui font du chantage aux élèves pauvres pour qu'ils prennent des leçons particulières. En Égypte, tout est mensonge, en dehors de la révolution. C'est ce que vous écrivez dans J'ai couru vers le Nil, page 422, Alaa El Aswany. Aujourd'hui, de quelles armes est-ce qu'on dispose pour lutter contre l'hypocrisie et le mensonge.
La vérité et la révolution. C'est elle, c'est Asma, c'est un autre personnage, vous voyez. Ça, je suis d'accord un peu. Elle généralise, hein. Elle dit les Égyptiens. Moi, je pense que pas mal d'Égyptiens et je, ça continue. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Alors, c'est la révolution, c'est la vérité. Et c'est la vérité, avec laquelle on peut vraiment lutter, on peut résister l'hypocrisie, la contre-révolution, la corruption.
C'est drôle parce que à vous entendre, c'est comme si vous dialoguiez avec vos personnages.
Absolument.
Certains qui sont d'accord avec vous, d'autres non.
Absolument.
Comme si vous créez le discours démocratique en fait.
Oui, il m'échappe. Après, j'aime vente. J'imagine les personnages et après un ou deux chapitres, ils deviennent indépendants et ils m'échappent. Ils décident Moi, je peux pas les empêcher. Vous voyez. Alors, je commence à les suivre. Vous voyez.
Mais vous imaginez un dialogue, une conversation, tout ce qui n'est pas possible, en
oui,
fin de compte.
Ça marche. Surtout s'il y a des femmes dans la scène, ça marche mieux. pour des raisons que je ne comprends pas. S'il y a un personnage femme, ça marche beaucoup mieux que deux personnages hommes.
Pourquoi ? Parce que les femmes sont plus promptes à la démocratie ?
Ouais. C'est pas question de démocratie, je ne sais pas. Hein. Mais c'est toujours plus facile avec les femmes.
Oui, ça dépend pour qui. Vous êtes né à la fin des années 50, à la Soigny, dans une famille d'intellectuels plutôt favorisés. À quoi ressemblait l'Égypte dans laquelle vous êtes né, dans laquelle vous avez grandi ?
Il y avait, il s'agit de la fin des années 60, alors c'était sous Nasser, c'était pas vraiment très bien, mais on avait des traces de l'Égypte cosmopolite. Moi, j'étais au lycée français du Caire, on avait quelques élèves juifs, quelques professeurs juifs, vous voyez, on avait cette tolérance. C'est vrai que c'était pas le cas parce que avec Nasser, ça a commencé à changer. Hein. Mais le lycée français restait quand même un endroit où vous êtes accepté, quel que soit votre background, votre religion. On avait des professeurs français. Pour nous, c'était vraiment. On a été choqués des professeurs français qui n'étaient pas croyants.
Mais à quel moment s'est éveillée votre conscience politique?
Je pense très tôt, grâce à mon père. J'étais enfant unique, très attaché à mon père. Il me parlait toujours. Je pense que très tôt, je me suis rendu compte que la politique, c'est pas vraiment la politique, parce que il n'y a pas de politique en Égypte dans le sens démocratique occidental. Mais la lutte, le combat pour la liberté, c'est quelque chose qui est très importante pour votre vie personnelle.
Mais alors, sous Moubarak, Alaa El Aswani, qui est quand même resté 30 ans au pouvoir, avant de devenir un écrivain à succès, comment est-ce que vous faisiez pour exprimer votre esprit de contestation?
Non, il y avait une formule différente sous Moubarak, parce que la formule était, vous écrivez ce que vous voulez, moi, je fais ce que je veux. Vous voyez? Et même, il utilisait quelques articles, quelques romans pour dire aux gouvernements occidentaux que, voyez, il me critique dans les journaux, qu'est-ce que vous voulez, c'est la démocratie.
Vous êtes en train de nous dire que ça n'a jamais été aussi dramatique qu'aujourd'hui.
Ah là là là. Non, mais ce régime, c'est comme un tigre blessé, vous voyez. Et le tigre blessé est beaucoup plus dangereux que le tigre qui n'est pas blessé. Et la blessure, c'est la révolution. Vous voyez? Alors, le régime, c'est le même régime, mais c'est une version beaucoup plus méchante. Parce que le tigre a été blessé, il n'a plus confiance en lui-même, et le tigre pense que c'est arrivé, la révolution, la blessure, et ça peut arriver une autre fois.
Quel est le prix à payer à Alaa El Aswani pour rester libre aujourd'hui?
Je suis plus chez moi, j'avais des problèmes, je suis poursuivi et tout, je suis interdit et tout, mais je peux pas comparer le prix que j'ai payé au prix payé par des camarades qui sont en prison ou qui ont été tués ou qui ont perdu les yeux.
On va continuer à en parler ensemble juste après Ma Liberté, tiens, par Serge Reggiani en 1967. Vous êtes sur France Inter avec Alaa El Aswani. Vous écoutez Boomerang, évidemment. Un lundi matin.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors, on est quelque part entre le leader charismatique et le bon père de famille. Vous savez, avec son air amène, de moine débonnaire, son regard doux, profond, calme, son sourire entendu, plein de bienveillance. On a envie de lui faire confiance, hein, de lui donner la main, d'en faire son compagnon de route. Il n'a rien, mais alors rien, d'un arracheur de temps, de dents, pardon, lui qui a longtemps été dentiste, avec sa veste bleu marine, sa chemise noire et ses lunettes de soleil d'aviateur. Dans sa poche gauche, l'écrivain Alaa El Aswany, poursuivi, on le disait, par la justice militaire égyptienne, invité de Boomerang ce matin, et j'y faisais allusion il y a un instant, vous avez longtemps été dentiste avant de vous mettre à écrire. Au tout début, cependant très tôt, les livres ont fait partie de votre univers. Comment est-ce que les livres sont entrés dans votre vie?
Ça a commencé très tôt parce que mon père était écrivain. J'étais un enfant unique, très attaché à mon père. Alors c'était le rêve de ma vie de d'être écrivain, mais on peut pas gagner sa vie sans avoir un autre métier. Mon père était écrivain et avocat. Alors c'est lui qui m'a conseillé d'avoir un autre métier. Comme ça, je suis devenu dentiste. Mais et je continue à être dentiste. Hein. J'ai mon cabinet dentaire au Caire.
Ah, c'est vrai? Encore aujourd'hui?
Oui.
Mais vous n'avez pas beaucoup de clients, de patients, je suis sûr. Allez, la soignée. Moi, je ne sais pas si je vous confierai mes dents.
Oui.
C'est une vraie question. Ces livres de votre enfance, ils étaient en quelle langue?
Les livres de mon enfance, c'était en français et en arabe. Parce que j'étais au lycée français. J'ai appris le français et l'arabe au même jour, quand j'avais 4 ans.
Et vous avez quand même traduit Baudelaire?
Oui.
Ça, c'est quand même incroyable.
J'ai traduit Baudelaire.
Ce qui est assez intéressant, c'est
un texte très intéressant.
Lequel?
Le hashish et le vin.
Ah bah bravo, oui. Vive la France. C'est son texte le plus intéressant, celui c'est un texte magnifique. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour autant, votre intérêt ne vous a pas poussé vers des études de lettres, mais vers la médecine. Donc, pour quelle raison au départ est-ce que vous êtes tourné vers cette profession de soignant?
Parce que, vous voyez, moi, il s'agit de deux métiers très liés. L'écriture, le roman, la littérature et la médecine.
Parce qu'on soigne.
Parce que on s'intéresse à la douleur humaine, hein, soit pour guérir la douleur humaine comme médecin, ou pour décrire la douleur humaine comme romancier. Et vous êtes toujours en contact avec des gens très différents, avec une diversité, une richesse qui vous donne toujours, chaque jour, une expérience humaine qui est vraiment très utile pour le romancier.
J'ai l'impression aussi que vous soignez dans les deux cas, et par le roman, vous soignez par le rire à la Ella Swani. Parce que malgré tout, il faut le dire, on rit énormément dans J'ai couru vers le Nil. En quoi le rire est-il pour vous salutaire?
Parce que la comédie, c'est une contradiction entre ce qui se passe et ce qui doit se passer. Et l'écrivain, et c'est pour cela que ça devient amusant, et l'écrivain est toujours capable, peut-être plus que les autres, de voir les contradictions.
Quand est-ce que le désir d'écrire des histoires s'est imposé à vous ?
Ah, très tôt. J'avais 11 ans quand j'ai écrit mon premier texte. Et j'ai montré mon premier texte à mon père, mais j'ai fait une faute grave parce que j'ai écrit des portraits, comme les portraits de la Bruyère, des portraits de mes oncles, les frères de mon père. Et j'ai utilisé l'opinion de ma mère qui était négative.
J'espère que vous n'avez pas été confronté à la censure.
Mais mon père s'est mis en colère. Il m'a donné il m'a conseillé pour la première fois en littérature. Et il m'a dit, écoute, quand tu écris sur des gens réels, tu dois changer les noms.
Alors c'est absolument passionnant parce que vous êtes pour moi un grand romancier du personnage, justement.
Merci.
Il y a toujours une foule de personnages dans vos romans. Qu'est-ce qui fait un bon personnage pour vous ?
Le personnage doit être vivant.
Vivant.
Et avec votre expérience comme romancier, ça vous le savez, vous le sentez, que ce personnage est avec moi. Il reste invisible, mais je crois qu'il existe. À ce moment-là, vous avez le roman. Et c'est une question du temps.
C'est un texte sur ce que c'est que d'écrire aujourd'hui, que vous nous avez fait la gentillesse de nous écrire ce matin, spécialement pour cette émission. Et j'aimerais que vous nous le lisiez.
Merci. J'écris car la différence entre ce qu'on a et ce qu'on mérite est devenue insupportable. J'écris parce que je suis pas d'accord. Je suis contre ce qui se passe. Contre l'injustice, la dictature, l'extrémisme religieux, l'hypocrisie, la laideur, la corruption et l'oppression. J'écris pour créer mon monde à moi et partager mon monde avec mes lecteurs. J'écris pour créer une vie qui ressemble à notre vie quotidienne, mais qui est plus profonde, plus significatif et plus belle. À travers mes personnages, j'essaye de montrer que nous sommes différents en couleur de peau, en religion, en classe sociale et en culture, mais nous sommes tous d'abord des êtres humains, avec les mêmes sentiments, les mêmes rêves et les mêmes souffrances. Les mères aiment leurs enfants de la même manière. Deux jeunes s'aiment de la même manière. Les enfants rient et pleurent de la même manière. Nous sommes tous faits de la même manière, mais on oublie souvent cette vérité. J'écris pour transmettre la voix des gens qui souffrent, des gens qui sont marginalisés et oubliés par tout le monde. J'écris car le monde est divisé. Le monde est divisé. Mais pas entre les musulmans et les occidentaux, comme croyait George Bush. Ni entre les blancs et les non-blancs, comme croit Donald Trump. Notre monde est divisé entre ceux qui restent humains et ceux qui deviennent inhumains. Du côté humain, on trouve les artistes, les enfants, les mères, les gens ordinaires qui travaillent honnêtement pour gagner leur vie, vivre et élever leurs enfants. Du côté inhumain, il y a tous ceux qui voient la vie en chiffres et pas en valeurs. Tous qui pratiquent la haine et pas l'amour. Tous ceux qui déhumanisent les autres. Qui ne les voient pas comme des êtres humains, mais comme des éléments appartenant à un groupe hostile. Des juifs ou des arabes, ou des musulmans, ou des occidentaux. Du côté inhumain, il y a les vendeurs d'armes, les généraux de guerre, les terroristes, les rois des corporations multinationales, les politiciens occidentaux qui soutiennent les dictatures pour les intérêts économiques de leur pays. Il y a les hypocrites, les menteurs et les intellectuels qui se sont vendus à la dictature. J'écris parce que la beauté littéraire n'existe jamais dans le vide, mais dans la défense des valeurs humaines. J'écris pour toutes ces raisons.
Et merci. Merci. Alaa Soigny, merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci pour ce texte aussi. Rien n'est plus clair ce matin. Je rappelle que J'ai couru vers le Nil, votre dernier roman, dans une traduction de Gilles Gauthier, est publié aux éditions Actes Sud et que c'est une lecture indispensable pour quiconque souhaite découvrir l'Égypte d'aujourd'hui dans toute sa complexité. Tout de suite, les médias. Dorothée Barba, juste après ça.
Casio, playing on my heart just like a Casio, breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'm cynical, alright, let's go now. Back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's not original. Cynical, alright, let's go now.
Jungle sur France Inter.